7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand des sujets de société tabous s'invitent dans les séries. Il y a la série Infidèle, la série Maîtresse d'un homme marié ou encore le podcast RFI Dianke qui raconte la corruption, les chantages sexuels au travail. Les scénarios s'inspirent de la réalité, s'inspirent des réseaux sociaux et certaines scènes sont très cash. Des religieux parlent d'incitation à la débauche pour la série télévisée Infidèle. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces histoires sont-elles ensuite débattues à la table familiale? Racontez-nous, posez vos questions aussi à nos invités réalisateurs de séries. Pourquoi aller si loin dans des sociétés conservatrices? Est-ce qu'il y a un risque de surenchère pour faire de l'audience sur le continent africain et pas que d'ailleurs? Vous nous téléphonez librement, gratuitement sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 33 7 64 45 51 41. Vous nous suivez aussi en direct sur Twitter et puis aussi le compte Instagram 7 milliards RFI. Je vous présente nos invités. Tidiane Tiang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du feuilleton radiophonique Dianke qui a été diffusé sur RFI, qui est disponible en podcast, qui est diffusé aussi sur des radios communautaires. C'est une série produite par l'ONG RAES. C'est comme ça qu'on dit?
Ouais.
En 12 épisodes, en français, en Wolof. Il y aura aussi bientôt du Bambara.
Full Day.
Oui.
Et Aoussa.
Et de Aoussa. Votre fiction, d'ailleurs, est en compétition officielle en ce moment au Festival du podcast à Paris pour la catégorie meilleur podcast, pour la catégorie meilleure musique originale. Et puis, vous êtes aussi en compétition pour le prix Europa pour la meilleure fiction. Donc, on croise les doigts. On est tous derrière vous, Tidiane Tiang. Il y a aussi une grosse équipe derrière. Hein, on la citera au passage. Ibougaï, vous êtes également en direct avec nous chez 7 milliards de voisins. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes réalisateur, scénariste de la série sénégalaise ô combien polémique en ce moment, Infidèle, diffusée en Wolof, sous-titrée en français sur YouTube. Combien de personnes regardent la série? Alors il y a la chaîne de télévision aussi sénégalaise, mais sur YouTube ça fait combien en audience?
Sur YouTube, 1 million à 1 million 7 par épisode.
Par épisode.
En 3-4 jours.
Ouais. 3-4 jours. Évidemment, bien au-delà des frontières sénégalaises. Vous êtes en direct à Dakar, grâce aux moyens techniques du studio RFI Mandinkan et Full Day. On les remercie et on les salue au passage. En fin d'émission, on aura Didier Akouété, le coach. Il nous parlera des difficultés du tourisme d'affaires et de ses PME en Afrique. Comment faire face à la baisse des investissements? Pour lui, il y a des solutions à ne pas manquer. Et je vous redonne notre numéro de WhatsApp si vous voulez participer à notre débat sur ces sujets tabous de la société qui sont déverrouillés par les séries télévisées, par les podcasts, par ces fictions. 33 7 64 45 51 41. Appelez-nous dès maintenant. Quelques messages sur nos réseaux sociaux. Ismaïla est à Nouakchott, en Mauritanie. Les séries ont permis vraiment de déverrouiller certains sujets considérés comme tabous. C'est le cas de l'infidélité avec la série Maîtresse d'un homme marié. Miguel est à Brazzaville, au Congo-Brazza. Dans la série Maîtresse d'un homme marié, on remarque que le bisou est interdit et que les acteurs se touchent très peu. Ils affirment que la culture africaine interdit les bisous. Mais s'il y a des personnages mariés ou amants dans la série, c'est normal qu'ils s'embrassent. Les enfants savent très bien que papa-maman s'embrassent. Rien qu'en regardant la série, on se rend compte combien le poids de la religion empêche les acteurs sénégalais de s'exprimer. « Moi, je suggère, nous dit Miguel, que les religieux laissent les artistes tranquilles car la série est diffusée à l'international et que tout le monde n'est pas musulman. » Ibougaï, vous avez entendu le message de Miguel que j'ai lu fidèlement. Les séries sénégalaises s'exportent, se vendent, c'est vrai, plutôt bien sur le reste du continent.
Oui, je pense que ces derniers temps, on peut dire qu'on a un peu pignon sur rue.
Oui. la fiction, la créativité sénégalaise, vous êtes d'accord avec ça, Tidiane Tiang?
Oui, je pense qu'en fait, il faut quand même laisser les artistes s'exprimer dans leur créativité. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans un continent où, voilà, qu'il y a ces réalités. Mmh. Il faut qu'il y ait de l'authenticité, ce qu'on nous a reproché toujours dans nos créations. Donc, je pense que le fait que des comédiens ne s'embrassent pas, ne se touchent pas, ça ne veut pas dire que le produit sera de moins bonne qualité. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux.
Ouais, et on peut dire que vous travaillez vraiment tous sur le fil du rasoir hein, pour ménager les susceptibilités et répondre aux attentes aussi des citoyens, des hommes et des femmes ordinaires. Eladj est au Sénégal, il nous dit, il y a un mot en Wolof, c'est soutoureux, je le prononce sûrement mal Tidiane, aidez-moi.
Soutoureux.
Voilà, et il dit, ça nous interdit de mettre les sujets comme la prostitution, l'infidélité sur la voie publique.
Oui, souvent ça arrive, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, quand il s'agit de sexualité, souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on parle avec tout le monde et partout.
Ça veut dire quoi ce mot en Wolof?
Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine retenue quand on prononce certains mots, comme même l'appellation dans les langues locales, que ce soit les organes génitaux, c'est assez imagé.
Voilà. C'est ça, la retenue, c'est ce qu'on peut vous reprocher dans votre série Infidèle, Ibougaï, de manquer de retenue parfois.
Oui, je pense qu'on nous a trouvé un peu trop cash, parce que nous faisons partie des gens peut-être qui pensent qu'il faut plus ou moins dépasser certaines choses.
Eh bien voilà, le débat est lancé. Trop, hein. Alors dépasser ou rester dans la retenue, difficile à trancher. En tout cas, le débat ne date pas d'hier. Souvenez-vous de cette vieille fiction, Carmen Gay, c'était il y a 20 ans déjà presque.
Hey, vous êtes cette femme au poste de police.
Bien voulu, je suis ta plus belle prise.
Tu es vraiment une drôle de femme.
Pas plus que les autres, ma Siri. Seulement, elle ne le montre pas. Pour ne pas faire de vagues.
Tu l'aimes trop, Carmen. Tu l'aimes mal.
Carmen, c'était une détenue dans une prison de femmes qui draguait la directrice du pénitencier pour se faire libérer. Donc il y avait de l'homosexualité. Enfin, c'était une sacrée pétroleuse. Et puis ça continuait ainsi pendant tout le film. Vous vous souvenez de ce film, Ibougaï?
Oui, oui, je me souviens très bien de Carmen, de Joe Ramaka. Je ne me trompe pas. C'est un film que j'ai regardé dans la clandestinité, si je peux m'exprimer ainsi, autant, parce que j'avais un groupe d'amis qui avaient réussi à avoir un extrait du film et on l'avait regardé dans un petit salon. Ouais. On avait trouvé que c'était un peu trop osé, autant.
Ouais.
Mais bon, voilà, le débat revient toujours, il faut...
Et vous en aviez discuté, j'imagine, ensuite avec vos copains de l'époque. Ensuite, bon, il y a eu alors plein d'autres fictions. Il y a eu bien sûr la série Maîtresse d'un homme marié qui a été un tournant ou pas, selon vous, Ibougaï?
Oui, un tournant, parce qu'ils ont pour la première fois un tout petit peu déverrouillé au niveau du langage. Par exemple, les premiers textes de l'actrice principale était assez cash. Et je pense que c'est ce qui avait suscité, comme nous, après le débat, et que tout le monde commençait à crier, c'était pas normal qu'elle parle comme ça. Alors que ce que je réponds très souvent à ce genre de discours, c'est que dans la rue et dans le discours de tous les jours des Sénégalais, c'est ce que nous entendons. Pourquoi est-ce qu'on refuse de la voir à la télé? Je ne comprends pas.
Tidiane Tiang, justement, comment vous trouvez vos sources d'inspiration, d'ailleurs, à tous les deux? C'est ce que vous entendez autour de vous? Ce sont les réseaux sociaux? C'est comment vous fixez les limites aussi entre la réalité qui parfois n'a pas de limites et ce que vous écrivez, et ce que vous mettez en scène, et ce que vous réalisez, Tidiane Tiang?
Bon, nous, en fait, je pense que c'est aussi deux approches qui sont un peu différentes, parce que nous, on travaille surtout sur des projets de développement, donc où vraiment il y a des études, il y a des recherches formatives sur le terrain, où on fait appel à des sociologues qui font ces recherches et qui nous donnent les informations à utiliser dans nos fictions. Donc on est quand même accompagné quelque part... dans les productions. N'empêche qu'on est toujours inspiré par ce qu'on voit, par le vécu, par les clichés, par tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'on ne peut pas faire de la fiction, parler à des communautés sans s'inspirer de ces communautés. Donc voilà, on est inspiré par le vécu, par ce qui se passe autour de nous, mais derrière aussi, il y a tout ce qui est ce travail de recherche. Après, je pense que aussi, ce qui fait peur quand on parle de fiction et la manière dont c'est abordé dans nos pays actuellement, comme quand on prend l'exemple de maîtresse d'un homme marié, c'est surtout est-ce qu'on arrive à protéger le jeune public en fait. Ça, c'est une question, je pense que quand j'ai écouté aussi les critiques par rapport à ces séries, c'est surtout à quelle heure ça doit être diffusé, qui est censé le regarder ou pas. Donc c'est une limite, voilà, il faut trouver le juste milieu
Est-ce
entre les deux.
qu'avec l'histoire d'Infidèle, vous allez la rappeler pour ceux qui auraient loupé la série Ibouguet, est-ce qu'on va plus loin qu'avec Maîtresse d'un homme marié?
Oui, il y en a qui disent que c'est un palier au-dessus, mais je pense pas. Parce que moi, je pense qu'avec Infidèle, ce qu'on a voulu montrer, c'est encore une fois une réalité. C'est ce qu'ils reprochaient aux producteurs sénégalais, aux réalisateurs et scénaristes de faire quelque chose qui soit loin de nos réalités. Du moment où on se plonge dans nos réalités, ils s'attendent toujours à ce qu'on montre peut-être le bon côté de la société sénégalaise. Alors que pour moi, un film, si ça ne choque pas, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est ma vision de la création. Quand j'écris un scénario, pour moi, il faut que ça pose, il faut que des questions soient posées. Maintenant, comme l'a dit Tidiane, le juste milieu est difficile à trouver. Parce que quand on vous parlait d'infidélité pour notre cas, c'est très difficile, comme je le dis. Il ne s'agit pas de moutons, il ne s'agit pas de vaches, il s'agit d'être humain et d'infidélité et d'amour et de sexe, malheureusement. Et il faut en parler.
Alors, bon, la série Infidèle, comme son nom l'indique, tourne beaucoup autour de la sexualité, mais qui est évidemment une part importante de la société. Dianke, la série, le feuilleton radiophonique, déverrouille des sujets de société, mais c'est beaucoup plus large. On écoute un résumé.
Mon Afrique. C'est pas un continent, c'est un ventre, un bouclier, l'origine du monde. Elle a le front digne, un nez fier, et s'il eût été plus court, la face du monde aurait changé. Elle a des stigmates sur les joues et sur les tempes. On lui offre la noix de cola pour embrasser ses lèvres. Mon Afrique, personne ne la connaît mieux que moi. Je l'ai fréquentée sur les bancs de l'école. Les autres disaient d'elle qu'elle était un garçon manqué. Moi, j'avais à l'idée qu'elle était, qu'elle est et qu'elle restera la Vénus qui ouvre le chemin pour les membres de son clan. Les autres disaient, c'est une fille. Elle était bien plus qu'un homme. Elle était une femme en devenir. Et elle s'appelait Dianke, mon Afrique. Alors, laissez-moi vous parler d'elle, Dianke. On raconte toujours mieux une histoire quand on aime. Celle de Dianke commence un jour comme un autre, quelque part dans mon pays.
Dianke, une fiction originale à écouter sur RFI.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
Voilà, le résumé, le pitch de Dianke, c'est vraiment le récit d'une femme libre hein, qui s'affranchit des convenances, qui a une soif de justice. Tidiane Tiang, est-ce qu'on peut résumer comme ça l'histoire de Dianke, cette jeune femme qui va évidemment passer par mille et une péripéties?
Oui, on peut le résumer comme ça et puis ajouter que aussi derrière l'histoire de Dianke, c'est aussi l'émancipation d'une femme. Une femme qui est, voilà, qui doit faire face à une société patriarcale, qui doit surmonter certaines choses en fait que la société impose à la femme, mais pas que. Et donc l'histoire de Dianke, c'est l'histoire d'une femme libre tout court en fait.
Et alors, le scénario ne tourne pas que autour de la sexualité, hein, mais aussi autour du monde du travail. Et vous acceptez l'étiquette, certains ont dit que c'était une série féministe. Vous acceptez cette étiquette?
C'est une réflexion féministe, je dirais, mais pas, on voulait éviter aussi d'avoir une approche militantiste en fait de la série. C'est surtout de poser des questions. Et je pense que ces questions, c'est pas qu'on est féministe ou pas, qu'on ne se les pose pas. En fait, c'est des questions qui nous interpellent actuellement sur quel rôle la femme doit jouer dans nos sociétés, surtout africaines.
Son père décède. Elle décide d'assister aux funérailles de son père. Son père qui ne l'a jamais élevé, hein, d'ailleurs. C'est sa mère qui a élevé les enfants seuls. Ça ne se fait pas.
Pendant les enterrements, en fait, moi, c'est quelque chose que j'avais noté, que les femmes n'étaient pas là pendant l'enterrement. Et ça, je ne me suis jamais posé la question à savoir pourquoi les femmes ne sont pas acceptées pendant l'enterrement. Elles ont le droit d'aller au cimetière, mais elles ne sont pas là pendant l'enterrement. Et ça a été une question que, pendant l'écriture, on s'est beaucoup posé, et il fallait faire des recherches, savoir qu'est-ce qui motivait en fait cette décision ou cette ce fait qu'on avait devant nous. Et on s'est rendu compte qu'en fait les femmes pouvaient bien arriver à être là pendant l'enterrement. Donc ça, c'est une question qui méritait aussi d'être soulevée, et la voix le soulève bien en disant que les femmes, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit d'être là, mais c'est parce que les gens disent qu'elles ne doivent pas être là.
Ouais, c'est toute la limite entre les interdits, les conventions. Enfin, elle dépasse les conventions, mais Dianke, elle n'est pas dans la provocation, contrairement à certaines séries télévisées.
Oui, parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait surtout, c'est l'éducation par le divertissement. C'est que derrière le personnage de Dianke, la manière dont elle a été caractérisée, c'est surtout qu'elle puisse porter aussi des messages qui doivent parler aux communautés. Et on sait bien que les communautés, souvent, lorsque les messages ne sont pas, entre guillemets, dans un cadre bien défini, elles ont du mal à les recevoir et à les appliquer. Et nous, on part de principe que, en fait, les personnages de nos séries, c'est comme des miroirs, en fait, que la société s'identifie à travers Dianke, que des jeunes filles arrivent aussi à se dire on peut le faire, on peut être des Dianke, on peut se lancer en politique, pourquoi pas demain être des présidents de la République, diriger des États. Et ça, je pense que c'est à leur portée. Avec Dianke, ça va les inspirer.
Ibou Gueye, dans votre série, la série Infidèle, la série télévisée, diffusée sur YouTube, il y a une scène là qui a beaucoup choqué. Dans l'épisode 3, il y a un homme, il y a une femme dans une voiture qui dialogue. Et tout d'un coup, on voit apparaître le sang des règles. On écoute un extrait.
Comment ça se dire de faire
mettre? Les règles commencent à me donner des toutes, mais ça, il faut que je mette.
Ah bon? Où est-ce que tu
mets? Je mets dans le bain.
Tu fais faire dans le bain?
Ça me règle, c'est là, je mets
règle. Règle ou là?
Donne-moi ça, s'il te plaît. Oui.
Mais yo, ma goutte, yo, yo, j'aime l'autre période, yo.
Non, ok. Oui, là, je suis désolé. Il faut que je me sente avec les gens.
Ah, mais bon, de toute façon, on ne va pas aller à Machidara.
Je suis désolé.
Je suis désolé. Il y a des mots français dans le dialogue en Wolof. Ibou Gueye, vous pouvez traduire là quelques phrases à la volée?
J'ai pas le choix.
J'ai pas le choix, dit l'homme à cette femme.
Parce que la femme lui dit, au moment, après avoir demandé au monsieur de lui payer des habits, elle trouve le prétexte de dire au monsieur que voilà, je viens d'avoir mes règles, et que voilà, le gars lui demande comment ça se fait, une grande dame comme vous devez savoir quand est-ce que ce genre de choses-là vous arrive. Il dit non, c'est pour la première fois que ça m'arrive comme ça, il faut que j'aille à la pharmacie pour trouver des serviettes. Genre. Et dans la séquence, on montre la fille qui sort une serviette de ses... voilà.
Raison valable pour ne pas avoir de relations sexuelles. Quel est le statut d'une fille comme ça, socialement?
Bon, ce qu'on appelle les mbaraneuses au Sénégal. Donc, les mbaraneuses, entre guillemets, c'est des filles qui ont deux ou trois ou plusieurs mecs. Et c'est juste pour leur souturer de l'argent. Et après, il y a un officiel, très souvent. Et l'officiel, c'est trop souvent le plus jeune ou le plus beau ou le plus... Voilà, celui qu'elle aime.
C'est pas une spécificité et... sénégalaise. Hein. Ça s'appelle aussi, nous, chez nous, ça s'est appelé autrefois des femmes entretenues. Enfin, voilà. Ça existe partout, hein, dans le monde entier.
Voilà, voilà. Donc voilà. Donc au Sénégal, c'est une pratique quand même courante, comme on dit. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne font que ça. Et elles ont plusieurs manières de se dérober au dernier moment.
Le président du CNRA sénégalais, c'est-à-dire le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, s'est dit traumatisé par cette scène. Hein. On voit un mouchoir ensanglanté. Le Conseil de l'audiovisuel a été saisi par un collectif d'organisations religieuses. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour vous?
Bon, déjà qu'ils nous ont imposé de mettre moins 16 sur la série.
Moins de 16
quand
ans
ça passe, ouais, quand ça passe à la télé. Mm. Et de décaler l'horaire de diffusion à 22h, 22h30, de ne plus faire les rediffusions le jour. Voilà, tout un tas de choses qu'ils nous ont demandé de revoir.
Oui, sur YouTube, évidemment, ça reste en libre service.
Oui. Plus ou moins.
Qu'est-ce que vous diriez de ce genre de série est-ce que ça a une influence sur la société sénégalaise?
Oui, je pense qu'on est dans des pays quand même où les jeunes, où les gens regardent tout le temps la télé, comme dans le monde entier d'ailleurs, mais la particularité peut-être de nos pays, c'est que les gens trouvent des modèles facilement avec les séries qu'ils regardent. Donc les jeunes comme les adultes, je disais à une personne que la mode au Sénégal, elle est plus ou moins définie par ce que les actrices, soit maîtresses d'un homme marié ou d'infidèles ou d'autres séries, mettent ou portent. C'est ce qui définit la mode. Donc c'est ce qui montre comment réellement les gens les suivent. Tout est défini en fonction. Même une musique, pour qu'elle soit plus ou moins populaire au Sénégal, si elle passe bien dans une série, elle risque d'être le top du moment. Donc,
oui, mais alors, du coup, si on suit votre raisonnement, quand l'ONG islamique Jamara qualifie votre série infidèle de production perverse, incitant à la fornication et à la débauche, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que ce genre de série a une influence sur les comportements?
C'est une manière, c'est là où le truc se pose. En fait, je suis pas d'accord sur un fait, c'est que il faut qu'on montre les choses et après. Pour moi, une série, c'est pas un seul épisode, une seule séquence. C'est toute une histoire, et pour moi, c'est toute l'histoire. Toute l'histoire que les gens devront juger. Les jeunes, ils regardent jusqu'à la fin, et c'est en ce moment-là qu'ils sauront qu'est-ce qu'il faut prendre ou qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Maintenant, sortir une séquence seulement de son contexte, l'exposer, et c'est ce que j'avais reproché au CNRA quand j'étais devant eux, parce qu'ils m'avaient appelé pour, à la limite, me questionner sur ça, et je leur avais demandé pourquoi. La plupart de ces séquences, c'est des séquences où on a ça au début, et à la fin de la séquence, il y a le message qu'on veut faire passer.
Ouais. Mais est-ce que finalement, c'est le propos de votre série de dire aux jeunes filles que de devenir une baraneuse dans la vie, c'est peut-être pas le top du top,
hein? Oui, c'est ce qu'on fait. Et actuellement, les épisodes, d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, il y a un post d'un gars de YouTube très suivi qui nous avait attaqué au début et qui a fait un post pour changer de discours, pour dire que Even Prod a gagné son combat. Et le débat, il y avait même Jamra sur au niveau du débat qui disait que oui, on va revenir, s'il le faut, féliciter Ibogay pour cela. Donc c'est juste parce qu'à un moment, je pense qu'ils sont allés un peu trop vite en besogne. Ils ne savaient pas de quoi on allait parler. Ils ont vu des séquences choc. Parce que pour moi, on ne peut pas traiter ce genre de sujet si on ne met pas le couteau dans la plaie. Et au début, on a mis le couteau dans la plaie et voilà.
Tout volontairement.
Volontairement, pour que les gens se rendent compte que ça, c'est un problème, il faut qu'on en parle.
Ouais. Un message de Franz qui nous dit un viol dans une série, ça peut faire revivre leur viol à certaines femmes alors qu'elles cherchent à l'oublier. Il se trouve qu'il y a aussi une scène de viol dans votre série.
Une scène de viol, parce que il y a un réel problème avec le viol, par exemple, particulièrement dans nos pays. Très souvent, quand une fille est plus, entre guillemets, libérée, si il lui arrive ce genre de choses, tout le monde dit c'est bien fait pour elle. Et dans la séquence, on montre il y a une fille qui est plus ou moins, voilà, qui fait comme elle sent, qui vit sa sexualité comme elle le sent. Un jour, elle dit non à son copain et le copain la viole. Et même quand ces épisodes-là sont passés, on se rend compte du réel problème parce que tout le monde a dit oui, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour elle. Et on traite maintenant, durant toute la saison, comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ce genre de situation. Donc pour moi, le sujet, le débat, il est là-bas. Le débat, il n'est pas dans
et
le fait
de... Et votre position est claire par rapport au fait que vous ne faites pas l'apologie du viol.
Ah oui, très clair. Ouais. Très clair.
Alors évidemment, il y a toujours un risque de faire de la surenchère aussi pour faire de l'audience. Je voudrais qu'on revienne à Dianke, qui, votre héroïne, Tian Tiang, travaille au début de la série dans une société de transport de marchandises. Et son histoire prend une tournure, alors là, pas sexuelle, mais assez politique finalement.
Allô?
Allô, Dianke, c'est Monsieur Kaba.
Ah, Monsieur Kaba, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec l'itinéraire que je vous ai envoyé?
Non, c'est pas ça. Je viens de me faire arrêter par la police.
Vous avez commis une infraction?
Pas du tout.
Ah, ok. On vous demande de l'argent, c'est ça?
Oui.
Écoutez, Monsieur Kaba, désormais, on ne donne plus d'argent à la police pour rien. Si vous n'êtes pas en tort, vous n'avez pas à payer. L'agent se fatiguera avant vous, de toute façon.
Oui, ok, ça marche.
Allez, à demain.
Dianke savait qu'elle ne devait son statut à personne. Elle était souvent la première à arriver au bureau et la dernière à en repartir. Elle avait dû accomplir deux fois plus d'efforts que les autres et se démener pour évoluer au sein de l'entreprise.
Si je vous ai engagé, c'est parce que j'avais décelé la femme de caractère que vous êtes.
Mais on ne fait pas de cadeaux aux femmes.
Dianke, il faut que vous appreniez à mettre de l'eau dans votre vin.
Surtout quand elles font de l'ombre aux hommes.
Hier, Monsieur Kaba vous a prévenu au téléphone qu'il s'était fait arrêter par la police. Vous lui avez ordonné de ne pas verser d'argent pour reprendre sa route. Eh bien, son camion a été immobilisé de nombreuses heures. Le poisson que contenait la cargaison a fini par pourrir. Non mais vous vous rendez compte que par votre rigidité, la société est sur le point de perdre un client important? Et puis vous avez un peu pensé à toute la mauvaise publicité que cette affaire va engendrer?
Vous m'avez embauché pour que je fasse mon travail. Et j'estime que ce...
Dianke n'était pas femme à faire profil bas. Elle avait calculé qu'avec ce que les bakchiches coûtaient tous les mois à la société, il y avait de quoi engager plusieurs chauffeurs supplémentaires. Alors elle n'allait certainement pas rédiger un courrier d'excuses à ce fameux client.
Dianke,
seulement,
je vous rappelle que je suis votre chef.
Un grain de riz aura toujours tort face à une poule.
Pas besoin, patron.
Ainsi soit-il. Alors je vous demanderai de vider votre bureau. Désormais, vous ne faites plus partie de nos effectifs.
Dianke savait qu'elle avait raison. Alors elle se contenta de secouer la tête en quittant le bureau de Jules. Dianke était une lionne. Elle n'allait pas supplier, ni verser de larmes au moment où elle rangeait ses effets dans un carton. Comment allait-elle annoncer son licenciement à son oncle Badou? Ce qui lui arrivait était injuste. Dianke en avait assez que la raison doive toujours battre en retraite face à la bêtise. Les jambes coupées, au bord de la route, elle déposa son carton. Elle sortit son téléphone portable, se connecta à Internet.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai été virée. Bien entendu, je suis en colère. Mais je ne fais pas cette vidéo pour me venger ou pour salir mon employeur. Tous mes collègues vous le diront. J'ai toujours travaillé dur, j'ai jamais compté mes heures. J'aimais mon travail, mais j'aime encore plus mon pays. C'est pour mon pays que j'ai perdu mon poste chez Jamoral Transport. Le mois dernier, j'ai décidé d'interdire aux chauffeurs de la société de verser des bakchiches lorsqu'ils sont arrêtés par la police. Et hier, l'un de mes collègues a été immobilisé sans raison pendant des heures et la cargaison, elle a été perdue. J'ai été virée parce que la corruption est plus forte que la morale. La corruption nous coûte cher. Je n'accepte pas que nos frères, nos époux, nos familles nous quittent sur des pirogues parce qu'ils ont le sentiment que leur pays les étouffe. Moi, Dianke, je suis une femme. Je reste... Et je me bats.
Pas besoin d'images là pour comprendre. Évidemment, si on veut connaître la suite hein, de l'histoire de cette jeune femme libre en proie à l'injustice, Dianke, la suite c'est sur RFI.fr en podcast, et puis il y a aussi sur les radios communautaires, c'est diffusé en Wolof, et puis il y a des langues locales, d'autres langues qui se préparent. Tidiane Tiang, vous êtes avec nous, vous êtes le réalisateur, il y a une grosse équipe hein, derrière cette réalisation de Dianke. On voit bien que là, on touche à du politique, et c'est vraiment le sujet de la corruption, le sujet qui fait débat aussi le soir à la table familiale.
Oui, les Africains sont très politiques. Hein. La politique, c'est ce qui nourrit tout ce qu'on, les discussions tout le temps, toute la journée dans nos rues, dans les bureaux. Donc, parler de la corruption, c'est vraiment un sujet qui est familier aux Africains, et surtout l'aspect qui est vraiment important, c'est de montrer les conséquences de la corruption, parce que souvent les gens, ils ont tendance à penser que la corruption c'est un corrupteur et quelqu'un qui reçoit un corrompu. Mais derrière toutes les conséquences que ça peut engendrer au niveau de la santé, de l'éducation, du développement du pays.
Et le point commun avec toutes vos histoires, hein, que ce soit la série Infidèle, votre série Bougueil, Tidiane Tiang, le podcast Dianke, les autres séries, c'est que ce sont des femmes hein, qui sont au cœur de ces problématiques, qui doivent prendre les décisions, de bonnes décisions ou pas, qui sont face à des dilemmes. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, dites nous ce que ça suscite comme discussion chez vous, toutes ces fictions. 33 7 64 45 51 41, on vous donne la parole. On est en ligne avec Anne qui nous appelle de Dakar.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Anne, vous avez 25 ans, vous voulez nous parler de la série Maîtresse d'un homme marié ?
Absolument. Pour la série Maîtresse d'un homme marié, ce que je trouve bien et intéressant, c'est que cette série permet une libération de la parole de la femme, d'obtenir l'avis de la femme sur des sujets de société. Le personnage de Marem est un personnage intrigant, drôle, mais qui pose beaucoup de controverses entre les générations.
Oui.
Tantôt il est aimé par les plus jeunes, tantôt il est polémiqué chez les plus âgés. Mmh. Comme quoi elle est trop libérée.
Mmh. Elle entretient une liaison avec Cher, hein, qui lui est marié à une femme beaucoup plus traditionnelle. Et d'ailleurs, elle va finalement devenir la co-épouse de l'épouse de Cher plus traditionnelle, de Lala. C'est ça, hein ?
C'est bien ça.
Ouais.
Elle entretenait une relation extra-conjugale avec Cher avant de finalement rejoindre le domicile conjugal. Mais on voit très bien qu'avec le personnage de Marem et de Lala, une dichotomie,
oui,
chez les femmes sénégalaises.
Mmh. Et ça crée du débat entre les générations aussi, c'est ce que vous voulez dire ?
Absolument. Mmh. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce personnage, il est très controversé, très aimé chez les plus jeunes, mais moins apprécié chez les plus âgés.
Et vous, vous identifiez à qui, Anne ?
Ah, c'est assez compliqué. Pas vraiment à Marem, mais sur certains points, je l'apprécie énormément. Mais sur d'autres points, pas vraiment.
On donne la parole aussi, restez en ligne avec nous, Anne, si vous souhaitez réagir. On donne la parole à Dimo, qui est à Libreville, au Gabon. Bonjour Dimo. Dimo, vous êtes bien en ligne avec nous ?
En direct ? Oui, je suis là. Bonjour
Dimo,
à tout le monde.
Bonjour à vous. Vous avez une fille de 13 ans et vous souhaitez revenir sur l'influence d'une certaine série Magnum.
Oui, c'est effectivement cela. J'ai surpris en faisant le ménage, j'ai surpris dans son journal intime comment elle se confiait, qu'elle était attirée par cet homme-là.
Alors c'est une nouvelle version,
oui,
hein, parce qu'il y a une première version américaine, c'était un acteur américain avec une moustache, moi je ne le trouvais pas si sexy que ça d'ailleurs, mais enfin maintenant il y a Jay Hernandez qui est arrivé, qui n'a plus de moustache, qui est d'origine mexicaine, et qui est très très sexy en effet. Donc en gros, cet acteur fait fantasmer votre fille de 13 ans, c'est ça Dimo ?
Voilà, c'est exactement ça.
Ouais. Le fameux détective privé. Et du coup, ça pose quel problème pour vous ?
Bon, j'aurais aimé la protéger de ces sensations-là.
Mm.
que les jeunes filles vivent pendant l'adolescence. Donc, du coup, lorsque j'ai surpris ça, j'ai dû ouvrir le débat de la sexualité avec elles. Mmh.
Mais qu'est-ce que vous avez surpris au juste?
Elle se confiait dans son journal intime. Oui. Qu'elle était très attirée par cet homme-là, mmh. qu'elle ferait un voyage en Amérique, est-ce qu'elle pourrait l'épouser. Et entre-temps aussi, elle en a parlé à ses copines à l'école.
Oui.
Et ces dernières sont allées la dénoncer à la directrice parce que c'est une école catholique.
Mmh.
Donc la directrice m'a convoquée disant qu'elle avait une mauvaise influence sur les autres élèves de sa classe.
Mmh.
Donc... vous voyez jusqu'où le fait de regarder la série nous a entraîné, elle et moi. Donc, c'est vrai, il y a une libération de la parole parce qu'on a abordé un débat assez tabou dans notre société. Mais là, je suis vraiment sur le qui-vive.
Parce que finalement, vous n'auriez pas abordé ce sujet, l'attirance sexuelle avec votre fille, parce que vous la considériez jusqu'à maintenant comme trop jeune, c'est ça ?
Voilà, pour moi, je me disais qu'on en parlerait lorsqu'elle aurait 16 ans, enfin à partir de 15-16 ans,
oui.
mais pas... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a 13 ans, mais ça s'est passé, je pense, l'année dernière, donc elle en avait que 12.
D'accord, donc avec la télé, on a 4 ans d'avance, direct, c'est ça?
Ben, je peux que dire oui.
Merci Dimo en tout cas de nous avoir appelé. Alors on voit bien hein, les témoignages des auditrices sont mitigés. On accueille Clément aussi qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Clément.
Bonjour.
On vous écoute Clément, vous êtes en direct sur RFI, 7 milliards de voisins.
Ok, 7 milliards de voisins. Ok, je vais aller droit au but. Le problème de la série que vous êtes en train de parler, La femme d'un homme marié...
Alors, on évoque plein de séries différentes, hein, là, rien n'est stigmatisé.
Ok, d'accord. En fait, cette série nous permet d'éduquer nos enfants, et d'éduquer nos femmes à la maison aussi. Parce que ça concerne l'homme et la femme.
Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que quand on est marié, il y a des hauts, il y a des bas. Et dès l'instant où vous divorcez un homme et vous allez avoir un amant quelque part, l'amant peut avoir au moins 4 ou 5 femmes.
Oui.
Vous serez peut-être la 6e. Donc il faut éduquer les enfants. Parce que les enfants regardent, ils pensent que c'est un film, mais il faut éduquer. Parce que la jeune fille, quand elle commence à avoir sa puberté, elle pense que tout est facile dans la vie.
Mmh.
Donc c'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants. Parce que chez nous en Afrique, les enfants n'ont pas de devoirs, ils ont des droits.
Mmh.
Ils n'ont pas des choses, ils ont des devoirs mais n'ont pas de droits. Chez vous là-bas, les enfants ont des droits. Chez nous ici, ils n'ont pas de droits, ils ont des devoirs. Et c'est pour ça qu'on les éduque. Ça y est, c'est le père ou la mère, c'est où, c'est entre les deux, il n'y a rien qui passe. Sinon, les enfants chez vous, là, nous, on n'a pas besoin de ça.
Mais vous le déplorez, ça, que les enfants n'aient pas de droits et qu'ils n'aient que des devoirs ou pas?
Non, en Afrique, ils n'ont pas de droits, ils ont des devoirs vis-à-vis des parents.
De bonne conduite.
Quand ils naissent,
d'accord.
Oui, les bonnes conduites. Quand ils naissent, on les envoie à l'école, on est tenu de les envoyer dans des bonnes écoles, ils sont tenus de nous donner des résultats. Et quand on dit c'est oui ou non, ils doivent appliquer. Ils n'ont pas de droit chez nous, ils ont
donc,
des devoirs.
Si je comprends bien, Clément, vous avez remis les pendules à l'heure quand vos enfants regardent ces séries, car il ne faudrait pas qu'ils s'identifient à ces histoires. Hein. Vous êtes un peu inquiet.
Tout à fait. Non, on parle avec eux pour leur dire c'est une série, certes, mais dans la vie réelle, dans la vie courante, ça arrive. Mais... il faut donner le bon exemple à l'enfant.
Oui.
L'enfant s'identifie via sa mère, via son père. Je donne un exemple simple. Un garçon qui va se marier à une femme, il recherche ce que sa maman a de bon chez cette dernière.
Mmh.
Et c'est pareil pour l'homme.
Oui, c'est pas évident quand même d'empêcher les jeunes qui regardent ces séries de se poser des questions, vous l'avez dit d'ailleurs, parce que ces histoires arrivent aussi dans la réalité. Merci Clément en tout cas de nous avoir appelé. Moi j'ai une question à vous poser, à vous Ibougaï et Tidiane Tiang, c'est que vous écrivez sur des femmes ou vous mettez en scène des femmes, vous êtes tous des hommes. Aux États-Unis, il y a des femmes qui vous diraient mais de quel droit vous imaginez des histoires, des dialogues en notre nom, on vous accuserait d'appropriation culturelle. Il bougeille.
Bon, moi, peut-être que j'ai, au niveau de Yvonne Prod, nous avons l'excuse de, d'avoir des femmes au niveau des, comme scénariste. J'ai plus ou moins une bande de femmes. Mais mes scénaristes sont toutes des femmes.
Ouais, bon, enfin, c'est quand même des hommes qui arrivent sur le devant de la scène ensuite. Hein.
Oui, parce que peut-être l'idée originale vient de moi. Après, on en discute, c'est eux, mais bon.
Vous savez les écouter, les femmes, hein, Tidiane Tiong. Ouais,
on sait les écouter, et surtout aussi, ça, c'est un aspect qu'on essaie de faire intervenir en fait dans ce qu'on fait, parce que souvent en prenant l'exemple des règles, on se rend compte que les hommes ne sont pas au courant en fait de ce qui se passe en fait, et ça c'est le problème.
Ou ne voudraient pas l'être en tout cas.
Voilà.
Quand ça arrive dans la scène d'un film, c'est difficile de mettre sa main devant les yeux.
Voilà.
Ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Bougaï, vous êtes réalisateur scénariste de la série sénégalaise Infidèle, diffusée en Wolof et dans d'autres langues, sous-titrée plutôt en français, et évidemment du coup regardez sur YouTube. Merci d'avoir été en liaison avec nous à partir du studio de RFI Mandinkan et Full Full Day à Dakar. Merci à vous Tidiane Tiong, réalisateur avec Alexandre Planck du feuilleton radiophonique Dianke, diffusé sur RFI, disponible en podcast, 12 épisodes en français, en Wolof, d'autres langues en préparation, surtout on croise les doigts et on espère que vous aurez un prix au festival du podcast et à Europa. Dans quelques instants, on donne la parole au coach Didier Abkouété. On va parler du tourisme d'affaires et de ces PME en Afrique qui sont dans le marasme. Comment faire face à la baisse des investissements?
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Milliards de voisins. On est en direct avec le coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes président d'Afrique Search et évidemment vous scrutez en ce moment, il n'y a pas que les sujets de société, il y a l'économie sur le devant de la scène en ce moment, la tourmente économique, et vous analysez la vie des PME. On observe une baisse des investissements qui sont attendus en Afrique avec un impact certain sur bon nombre de secteurs, notamment le secteur touristique, et les PME sont au cœur de tous ces changements?
Effectivement, vous savez, vous le disiez, il y a surtout l'économie, il y a l'essence d'économie. Je crois que le continent va passer une très mauvaise année, voire l'année 2021. Et le tourisme en particulier, qui est un levier de développement extrêmement important, certes encore sous-exploité, est vraiment un secteur crucial pour l'Afrique. On estime qu'à peu près 10% du PIB africain est généré par le tourisme. Et vous avez des pays d'ailleurs qui ne vivent que de ça. Vous prenez le Cap Vert, les Seychelles, l'île Maurice, ou d'autres pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal. Il y a une partie conséquente de leur... Mais c'est ce qui est tiré de ça. Et malheureusement, la pandémie est un petit peu passée par là, puisqu'on estime que plus de 75% de business lié au tourisme a été perdu, avec 7 à 15 millions d'emplois que de perdre. Alors c'est vrai, l'Afrique est une destination qui est vraiment qui attire de plus en plus de touristes. Hein. C'est la deuxième région qui a attiré le plus de touristes en 2019, même si ça reste des chiffres faibles par rapport aux 1,5 milliard de touristes dans le monde. On en a capté moins de 100 millions, mais ça reste un business extrêmement important. Et la crise de la Covid vraiment perturbe énormément ce business et le secteur.
Didier Akwété, restez bien devant votre téléphone, on a tendance à vous perdre sur la ligne téléphonique. Alors, la chute du tourisme d'affaires tirait jusqu'à maintenant la croissance du secteur. Comment les PME vont pouvoir se redéployer plutôt?
Alors, c'est vrai que le tourisme d'affaires a été un élément important du développement de l'industrie touristique en Afrique, avec la hausse de l'investissement, les hommes d'affaires africains qui se déplacent énormément, certains hôtels...
Pour les conférences, les congrès, etc.
Absolument, à plus de 50% par des touristes d'affaires africains. Donc ça, c'est une dynamique extrêmement importante. Bon, lorsque les frontières ont fermé, évidemment, difficile de se déplacer, mais il me semble qu'avec l'ouverture progressive des frontières, que ce soit le tourisme général ou le tourisme d'affaires, on peut réinventer un petit peu le business autour de ça, et c'est là où les agences, à mon avis, ont un rôle important à jouer, on peut citer trois idées. Hein. Tiens. Bon, déjà, la digitalisation, on a beaucoup parlé. Il faut que les agences et le secteur se digitalisent pour faciliter en réalité les voyages avec le minimum d'opérations manuelles possibles à faire lorsqu'on décide de voyager et surtout beaucoup d'informations. Et même nous, aujourd'hui, voyager, c'est compliqué. Un pays, il faut être en quarantaine, l'autre, il faut produire tel test, ensuite ici. Donc, c'est extrêmement difficile et il faut presque en temps réel avoir une base d'informations qu'on peut envoyer aux clients et aux consommateurs. Deuxièmement, ce qu'on a remarqué, c'est que pendant la crise, et même pendant le mois d'août et juillet, le tourisme intérieur s'est beaucoup développé. Que ce soit au Côte d'Ivoire, au Kenya, bref, les pays qui n'étaient pas confinés. Oui,
les Africains ont enfin déplacés. Eu envie de découvrir leur propre pays, finalement.
Exactement. Mmh. Et donc, ce tourisme intérieur est un segment qui était largement inexploité. Mmh. Mais qui, du coup, aujourd'hui, est un segment qu'il faut redévelopper, donc avec des séjours plus courts, peut-être des séjours thématiques à l'intérieur pour capter cette clientèle qui peut un petit peu moins déplacer. Les itinéraires individualisés, des petits groupes, bref, tout ce qui est séjour thématique intérieur est quelque chose qu'il faut privilégier. Et puis, on a même vu, hein, dans des pays comme le Kenya, ce qu'on appelait le tourisme virtuel, les safaris virtuels, avec une technologie augmentée, où vous étiez dans votre salon, et puis vous étiez en train de visiter un parc animalier,
voilà.
Avec vos lunettes, et donc c'était
c'est ça, on peut presque taper curieux. Sur l'épaule des éléphants.
C'est tout comme, sans être à côté. Donc je pense vraiment que c'est un secteur qui doit se réinventer, avec un certain nombre d'innovations pour aller au-delà des fermetures de frontières et de la baisse des investissements internationaux.
Ceci dit, c'est clair que l'argent frais, vous l'avez dit, va cruellement manquer dans les mois à venir. Alors, quelle perspective ? Est-ce qu'on fait une version optimiste, une version pessimiste et une version réaliste ?
Je crois qu'il faut faire une version optimiste parce que, heureusement, l'Afrique n'est pas très atteinte par la crise sanitaire, donc c'est plutôt bon signe. Et si les politiques publiques accompagnent bien ce secteur pourrait vraiment rebondir avec la clientèle africaine et la clientèle intérieure. On l'a vu en Chine, par exemple. Hein, vous savez, en septembre, la Chine avait déjà atteint 80% de son tourisme intérieur par rapport à l'année 2019. Donc, au niveau intérieur, le tourisme fait redécoller ce secteur. Et je pense qu'en Afrique, on peut tout à fait faire redécoller ce secteur avec le tourisme d'affaires et le tourisme tout simplement africain, avec quelques mesures publiques d'accompagnement, pourquoi pas donner des tickets voyage à des familles qui pourraient l'utiliser dans les pays pour stimuler un petit peu ce secteur et aller au secours de ces milliers de PME qui souffrent énormément de cette crise.
Ça coûte évidemment un peu plus cher que de regarder des séries à la télévision ou sur YouTube. Hein. Il ne faut quand même pas se leurrer. Merci beaucoup.
C'est peut-être même plus intéressant que ces séries, à mon avis.
Merci beaucoup, Didier Akouété. On vous retrouvera pour une prochaine chronique. Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Évidemment, vous pouvez réécouter toutes nos émissions, ça c'est complètement gratuit, en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement à l'heure qui vous plaît. Et à ce moment-là, plus besoin d'avoir de la connexion Wi-Fi pour nous écouter. C'est la même chose d'ailleurs pour le super podcast Dianke. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera cuisine au menu céréales et farines du continent. On ira jusqu'en Éthiopie d'ailleurs pour découvrir la farine de teff et tout ce qu'on peut faire avec. Et évidemment, c'est le moment aussi de poster vos recettes préférées à partir de céréales, de farine au 33 7 64 45 51 41. Puis n'oubliez pas aussi, demain, il y aura des recettes qui seront postées sur notre compte Instagram 7 milliards RFI. Voilà, je vous dis à demain et merci à vous tous de votre fidélité.